Merci, merci Benjamin. Merci à tous et à toutes d'être là aujourd'hui. Effectivement, je voudrais vous parler de matière active. En fait, je voudrais vous parler de deux choses. Je voudrais vous parler d'hydraulique. Je voudrais vous parler d'hydraulique des troupeaux. Et je voudrais vous parler d'hydrodynamique et plus spécifiquement d'hydrodynamique des foules. D'accord? Et dans les deux parties de mon exposé, je vais essayer de répondre en fait à une question. C'est comment coule la matière active? Et pour pouvoir commencer, je pense que j'ai besoin de faire quelque chose, c'est de vous définir un petit peu qu'est-ce que c'est que la matière active. Alors plutôt que de vous donner une définition formelle, j'ai pris le parti de vous donner un exemple. Un exemple qui me tient particulièrement à cœur. Donc, ce que vous voyez sur cette photo, c'est Marin Bartolo. C'est mon fils. D'accord? Et je peux vous garantir qu'il est très actif. Mais il ne faut pas me croire sur parole. Donc, je vais vous le prouver. Voilà. Donc, c'est Marin, en Sardaigne, en 2019. Et vous voyez que Marin, c'est un objet assez particulier quand même. Parce que vous voyez qu'il est capable de rire, de se déplacer, de déformer son corps, sans que j'aie besoin de venir lui tenir le bras, lui déformer le bras, le bouger, le pousser ou le chatouiller, vous voyez? Donc en fait, Marin, il est capable de convertir de l'énergie chimique qu'il a à l'intérieur de son corps en énergie cinétique. Et ça, c'est un exemple de la matière active. Alors j'ai une bonne nouvelle pour tout le monde aujourd'hui. Nous sommes tous des solides actifs. Plus ou moins mous, ok? Mais on est tous des solides actifs. Alors je vais vous donner d'autres exemples. Ça, c'est un exemple d'image d'une expérience que j'ai eu le plaisir de faire avec Jake Butters une fois par mois aux Bahamas. Donc là, ce que vous voyez, c'est plusieurs exemples de. J'ai perdu. Voilà. Plusieurs exemples de systèmes actifs. Hein. Vous avez une raie, un requin. Vous avez ici un banc de ce qu'on appelle des bonefish. Les bonefish, c'est des poissons qui sont à peu près grands comme ça et qui sont le Graal des gens qui font de la pêche sportive. Et ce que je voudrais vous regarder, enfin vous inviter à regarder, c'est pas tellement le mouvement de la raie, le mouvement du requin ou le mouvement des poissons individuels, mais plutôt de regarder le mouvement du banc. Ce que vous pouvez voir, c'est que bon, ben, la raie vient, manifestement elle n'est pas contente que le requin dorme, mais réveille le requin. Et le résultat, ce que vous voyez, c'est qu'effectivement l'ensemble de ce banc se déplace pour former cette forme de mouvement vertical. Et quand on regarde ce banc, en tout cas moi, quand je le regarde, j'ai l'impression de voir une goutte d'un liquide qui se déformerait toute seule. Alors, je trouve que l'exemple est encore plus frappant quand on regarde des nuées d'étourneaux, par exemple. Ça, c'est des images très célèbres de la BBC qui ont été prises dans le ciel du Vatican. Donc, l'image est super parce que finalement, on n'a pas la résolution pour distinguer les étourneaux individuellement les uns des autres. On regarde ça de très très loin et finalement, une nuée. Ben, ça ressemble à une goutte d'un liquide qui serait suspendue dans le ciel, qui serait capable de se déformer spontanément et aussi de translater, de tourner. Encore une fois, sans qu'il y ait besoin d'un champ extérieur, opérateur, tout ce que vous voulez, qui viendrait imprimer une direction ou une déformation à cette assemblée. Donc encore une fois, l'image que j'aimerais en donner aujourd'hui, c'est celle d'une goutte de liquide qui s'écoule spontanément. Alors, pour garder la même image de liquide qui coule spontanément, et cette fois-ci avec un écoulement simple, hein, qui serait un gros écoulement laminaire unidirectionnel, je vous montre ce film d'un exemple un petit peu funeste d'une nuée de, comment on dit locust en français, de criquets, qui a survolé le ciel de Madagascar et qui en a ravagé toutes les récoltes il y a une quinzaine d'années. Et donc là encore, vous avez finalement un ensemble d'atomes qui sont ici des criquets, qui forment un liquide qui coule spontanément, qui forme un écoulement laminaire unidirectionnel. Et ce, en dépit du fait que dans cette nuée, vous n'avez pas de président jupitérien ou pas, de dictateur, de général qui viendrait coordonner le mouvement de cette nuée d'oiseaux. Il n'y a pas non plus d'impératif externe qui va déterminer le trajet de la nuée. Et ça, c'est finalement une zone assez confortable pour des physiciens. Si vous avez une grande classe de systèmes dont les unités microscopiques sont différentes, mais qui présentent un comportement macroscopique identique. Et en l'occurrence, ce comportement macroscopique, dans tous ces exemples, c'est de se déplacer de façon cohésive, de façon cohérente, le long d'une même direction moyenne. Et donc j'ai envie de dire que les nuées, les bancs et les troupeaux, ce sont simplement des liquides qui s'écoulent spontanément, modulo le fait qu'on les regarde de suffisamment loin. Ok. Alors, ça a fasciné pas mal de physiciens, de particulier depuis la fin des années 90. Et ça a surtout excité les théoriciens dans un premier temps, fin des années 90, années 2000. Et puis en 2010, il y a les expérimentateurs qui se sont réveillés, qui se sont dit « Bon, ok, on en a marre que les théoriciens montent des jolis films de nuées d'oiseaux et de bancs de poissons, ça serait quand même sympa qu'ils montent des films qui sortent des labos. » Et donc là, il y a eu un effort considérable de la communauté scientifique pour arriver à synthétiser des matériaux actifs, cette fois-ci synthétiques, artificiels. Et aujourd'hui, après une petite quinzaine d'années d'efforts, on a motorisé ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie d'appeler les briques élémentaires des systèmes de la matière molle. Donc si vous ne savez pas exactement ce que c'est pas grave, je vais vous détailler les exemples un par un. Vous avez ici, à gauche, donc une émulsion, c'est-à-dire des gouttes d'un liquide suspendu dans un autre liquide non miscible. Bon, un groupe allemand du Max Planck Institute a réussi à motoriser ces gouttelettes, d'accord, et donc vous les voyez se déplacer très lentement sur cette vidéo. Cette image est certainement une des images qui, ce second film, montre un liquide cristal nématique qui est en train de se déformer et de couler spontanément. Alors ça, c'est une des vidéos les plus montrées en conférence, dès que vous allez dans une conférence de matière molle ou de physique statistique en ce moment. Vous avez un exemple de colloïdes actifs qui forment des cristallites, qui avaient été motorisés à l'université de NYU à New York. Et vous avez ici une membrane, d'accord, bidimensionnelle, fluide, qui, encore une fois, spontanément, peut rouler, tourner, se déformer, sans avoir appliqué de champ ou de force extérieure. Super. Alors, ce qui ressort de ces quatre exemples, c'est que finalement, contrairement à tous les films que je vous ai montrés jusqu'à présent, les mouvements qui émergent, d'accord, de la motilité de ces unités élémentaires n'est pas très coordonné. Hein. Ça ressemble plutôt à ce qu'on appelle en physique du chaos spatio-temporel. D'accord, donc c'est non stationnaire dans le temps et la structure spatiale est complexe. Alors c'est là où moi aussi je me suis énervé, il y a une dizaine d'années, et à l'époque, donc, j'étais à Paris, on s'est dit, nous aussi, on aimerait bien avoir un film cool à montrer à tout le monde. D'accord ? Donc on s'est dit, il faudrait qu'on arrive à motoriser des particules et qu'on ait des écoulements spectaculaires. Et donc à l'époque, moi je commençais ma carrière de maître de conf, j'étais pas très riche. Et donc, à ma disposition, j'avais que les billes de polystyrène les moins chères qu'on pouvait trouver sur Internet. D'accord ? C'est-à-dire des billes de polystyrène de 5 microns. On les a déposées dans une chambre circulaire, là, qui fait 3 cm de diamètre. Donc, typiquement, ici, vous avez quelques millions de billes, d'accord, qui sont toutes déposées sur la surface inférieure de cette chambre. Et il s'avère que, je me souviens très bien, j'ai écouté un séminaire, un petit peu comme vous le faites aujourd'hui. Le gars parle d'un vieil effet du 19e siècle. Je vais déjeuner dans la rue Mouffetard à Paris. J'écris sur une nappe, je dis « Ah, ben là on va arriver à motoriser des particules ». Bon, alors attendez, je fais un détour, j'avais pas prévu ça, mais je vous raconte l'histoire parce que c'est marrant. Donc à Paris, le mètre carré est cher. D'accord. Donc j'embauche un thésard. Je lui dis, on va faire de la matière active expérimentale, on va motoriser des millions de particules, on va faire des troupeaux géants, ça va être génial. Alors l'étudiant, ouais, trop bien, trop bien, trop bien. Puis il vient. Puis à l'époque, j'avais 4 étudiants en thèse et mon labo faisait 14 mètres carrés. D'accord. Et lui, c'était le 5e. Et je lui dis, en fait, j'ai pas la place. Donc il va falloir que tu attendes qu'il y en ait un des 4 qui soutienne pour qu'on commence l'expérience. Et donc pendant 6 mois, il a fait du numérique. Bon, il était dégoûté. Hein. Il fait du numérique et il a aussi commandé les billes de polystyrène et tout ce dont on a besoin pour motoriser ces particules. Et je vais vous expliquer un peu plus en détail comment, dans un instant. Et puis, le lendemain de la soutenance de thèse de mon étudiant, il s'installe, il pose un amplificateur, il pose le microscope, il pose les billes. Je lui dis, tout va bien Antoine, c'est bon, t'es prêt? Il fait, ouais, bah écoute, hein, je te tiens au courant, à bientôt. Je monte dans mon bureau, et une demi-heure plus tard, il m'appelle et me dit, Denis, je crois qu'il faudrait que tu descendes dans le labo. Et il me montre ce film. Donc ce que vous voyez, c'est que ces particules, on peut les motoriser simplement en appuyant sur la touche d'un clavier, hein, c'est aussi simple que ça. Quand elles se déplacent, elles collisionnent, elles interagissent, elles forment un liquide. Et l'écoulement de ce liquide lui-même s'auto-organise pour former un mouvement extrêmement coordonné, d'accord, sous la forme d'un vortex qui va occuper tout l'espace disponible dans cette chambre de 3 cm. Donc on est en train de dire que vous avez une population de 3 millions d'individus qui sont tous en train de se déplacer dans la même direction, ou de dire que vous avez un liquide colloïdal qui coule spontanément sans que j'ai besoin d'insérer une petite cuillère pour le touiller ou d'appliquer une différence de pression locale. Alors, on appelle ça donc un flocking fluid, c'est-à-dire en fait un fluide troupeau. Quand vous l'intégrez cette fois-ci dans un canal qui a la forme d'une piste d'athlétisme, eh bien à l'intérieur de cette partie rectiligne, vous voyez que l'ensemble des particules se déplacent en moyenne le long de la même direction. Vous demandez aux particules de s'arrêter, elles s'arrêtent. Quand vous leur redemandez d'avancer, elles continuent. Et la probabilité de tourner dans le sens trigonométrique ou dans le sens aiguille d'une montre, c'est 50-50. Donc rien n'impose la direction du mouvement, le mouvement est spontané. Ok. Et pour arriver en fait à ingénierer ce type de matériau, vous avez besoin de deux ingrédients. Vous avez besoin d'unités autopropulsées, envie que nos systèmes soient actifs, mais vous avez aussi besoin de contrôler les interactions entre ces objets. Et vous avez besoin que ces interactions soient polaires. Alors des interactions polaires, c'est assez simple. Je vais définir la polarité des particules comme ici le sens, la direction de leur mouvement. Vous avez besoin que, sous l'effet d'une collision, les vitesses 2 à 2 aient tendance à s'aligner. L'alignement n'a pas besoin d'être parfait, mais dès que vous avez une petite composante polaire dans cette interaction, modulo le fait que le milieu soit suffisamment dense, vous allez avoir spontanément un comportement de troupeau qui va émerger. Alors comment notre brave Antoine, qui avait attendu patiemment pendant 6 mois, a réussi à motoriser les colloïdes? Ben, l'idée était assez simple. Ça consiste à utiliser un effet qui avait été découvert à la fin du 19e siècle, à l'époque où tout le monde a cherché à faire des moteurs. Et donc un gars qui s'appelait Monsieur Quincke dit « Ah ben j'ai une idée pour faire un moteur, vous allez prendre une particule isolante, vous la mettez dans un liquide conducteur et vous appliquez un champ électrique constant. Si vous faites ça, vous avez les charges en solution qui vont s'accumuler sur la surface de la particule. Les charges moins vont remonter le champ, vont s'accumuler en haut, les charges plus vont remonter le champ, s'accumuler en bas, et ça va vous former un dipôle. Et si vous vous souvenez un tout petit peu de votre premier cours d'électrostatique, ben vous savez qu'un dipôle électrique, pour minimiser son énergie, ça a plutôt tendance à s'aligner avec un champ électrique et pas de pointer dans la direction opposée. Alors ici, la situation est un petit peu plus complexe parce que vous injectez des charges en permanence dans le milieu, donc vous pouvez stabiliser cet état. Et en fait, il faut dépasser un champ seuil pour effectivement déstabiliser cette configuration et sauter dans une autre configuration un peu particulière où votre dipôle électrique va former un angle fini avec le champ. Et là, ça, c'est le deuxième cours d'électrostatique. Vous savez peut-être que quand un dipôle électrique fait un angle fini avec un champ électrique, d'accord, la particule qui supporte le dipôle subit un couple électrostatique. Et ce couple va entraîner la rotation de la particule, en particulier quand elle est immergée dans un fluide visqueux. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'électrorotation de Quincke. Alors, Quincke n'est pas devenu milliardaire en faisant des moteurs, le rendement est catastrophique, et le phénomène est tombé essentiellement dans l'oubli. Donc finalement, on a recyclé, pour motoriser des particules, un effet de la fin du 19e, puis on a recyclé un autre effet qui consiste à convertir un mouvement de rotation en mouvement de translation en prenant un objet qui tourne et en le déposant sur une surface. Ça s'appelle la roue. Okay. Et ça marche pas mal. Okay. Donc essentiellement, on a combiné ces deux effets. On a utilisé nos particules de polystyrène essentiellement parce qu'elles étaient pas chères et parce qu'on pouvait en avoir beaucoup. Et ce que vous constatez, c'est que quand vous appliquez un champ transverse à l'écran ici, Quand le système est dilué, vous voyez toutes nos particules ici qui se déplacent à vitesse constante le long de directions aléatoires. Et donc c'est pour ça qu'on va parler de particules autopropulsées. On n'a pas spécifié la direction du mouvement. Encore une fois ici, le champ électrique ne spécifie pas la direction dans la mesure où il est normal au plan du mouvement. Et puis quand vous concentrez ces objets, ils interagissent plus. Les interactions sont polaires, je ne vais pas vous détailler pourquoi. Mais comme les interactions sont polaires, et bien effectivement le système floque, c'est-à-dire forme un troupeau, et vous avez formation de ce liquide qui coule spontanément. Donc finalement, dans des canaux ou des tuyaux, pas de problème, nos liquides actifs, et en fait c'est le cas de tous les liquides actifs au-delà de cet exemple-là, modulo le fait que le canal soit, ait un rapport d'aspect suffisamment grand, donc le liquide actif va présenter un écoulement spontané et laminaire. Et donc la question que je voulais poser maintenant, c'est, ok, écoulement dans un canal, ça c'est facile. Maintenant, imaginons que je vais aller faire de l'hydraulique. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre un canal, je prends un réseau de canaux, je les connecte. Est-ce que je vais être capable de prévoir comment s'écoule ce liquide, encore une fois, comment il s'écoule spontanément, dans ce réseau de canaux interconnectés? Alors, sur cette image, vous avez un réseau de canaux qui forme une structure nid d'abeille. Donc la question, c'est est-ce que je suis capable de définir les lois de l'hydraulique pour les liquides actifs? Puis là, j'ai introduit un autre mot, celui de l'hydraulique. Alors je vais être sûr, encore une fois, qu'on soit sur la même page. L'hydraulique, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est une des plus vieilles sciences de l'ingénieur qui consiste à expliquer comment transporter des liquides au travers de réseaux, de tubes ou de canaux. Alors c'est quelque chose, en fait, qui a été inventé par les Mésopotamiens et les Égyptiens, vers moins 6000 avant Jésus-Christ, quand les premiers systèmes d'irrigation ont été développés. Et c'est un sujet qui est toujours d'actualité, parce que, un sujet, une science qui est toujours importante dans le développement des cités modernes. Et pour illustrer cette affirmation, je vous montre ici, par exemple, la carte du réseau hydraulique du système d'égout de la ville de Paris. Donc vous voyez qu'il voulait qu'il fonctionne bien et qu'il soit bien optimisé. Donc d'un point de vue de l'engineering, c'est comprendre et designer des structures hydrauliques, c'est toujours compliqué. Maintenant, si je prends un point de vue de physicien un petit peu naïf, j'ai envie de dire que le problème est complètement résolu, en tout cas quand il s'agit de liquides visqueux, que vous regardiez des écoulements dans des réseaux naturels ou des réseaux artificiels. L'hydraulique des liquides visqueux, c'est un problème linéaire. Et c'est un problème linéaire qu'on décrit complètement à partir de deux lois. Il y a une loi très fondamentale qui est la conservation de la masse. Et ça, c'est la loi en fait sur laquelle reposaient les systèmes d'irrigation des Égyptiens et des Mésopotamiens. La conservation de la masse, ça vous dit que dans un état stationnaire, à chaque nœud, la somme des courants est égale à zéro. Ce qu'on appelle la première loi Kirchhoff en électricité. Et il a fallu attendre presque 8000 ans pour tomber sur la deuxième loi, qui elle est beaucoup moins fondamentale. Et cette deuxième loi, elle a été découverte par Poiseuil, Darcy en France, et puis par Hagen aux Pays-Bas. Et cette loi, vous la connaissez sous le nom de loi de Darcy, parce qu'on est français, donc on choisit le nom du mec français. Et elle nous dit simplement que quand un liquide visqueux s'écoule dans un tuyau, le flux de masse est proportionnel à la chute de pression de part et d'autre du tube. En électricité, on a dit U égale RI. Okay. En hydraulique, on va dire que le flux J est égal à moins une constante fois le saut de pression delta P. Bon, ben vous avez deux jeux de relations linéaires. Maintenant, je vous donne une géométrie d'un réseau hydraulique. D'accord. Vous avez N équations linéaires à résoudre. Ben, pas de problème, vous savez faire, vous prenez votre ordinateur favori, vous inversez une grosse matrice et modulo la donnée de conditions limites, vous savez absolument décrire le champ de pression et le champ de courant absolument partout dans votre structure hydraulique. Et là, on aurait pu être peinard. C'était réglé depuis Darcy. Et puis malheureusement, année 2010, il y a des mecs qui se pointent et disent « Non, non, nous, on va faire des liquides actifs. » Et là, ça a compliqué les opérations. Et je voudrais vous montrer pourquoi ça complique l'opération. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que ce liquide, il peut couler spontanément soit vers la droite, soit vers la gauche. Donc essentiellement, le flux, il peut avoir plus 1 ou moins 1 le long de ce canal. Mais à aucun moment, quand je vous ai parlé du mécanisme de motorisation, je vous ai dit qu'il fallait appliquer une différence de pression de part et d'autre du canal. C'est que vous avez un écoulement spontané. Par spontané, j'entends, en l'absence de gradient de pression, vous avez votre liquide qui peut s'écouler dans une direction ou dans l'autre. Et plus 1 et moins 1 sur la verticale, ça va être très compliqué à ajuster sur une droite qui passe par l'origine. D'accord ? Vous avez une équation, ce qu'on appelle une relation constitutive entre débit et pression qui est non linéaire. Alors, en réalité, on a voulu tester exactement quelle était cette relation constitutive. Donc, on a, nous, en dépit du fait qu'on n'en avait pas besoin, appliqué quand même une différence de pression de part et d'autre du canal, et on a mesuré comment varier le flux en fonction de la chute de pression. Ce que vous voyez, c'est qu'essentiellement, sur une grande gamme de pression, l'écoulement ne dépend pas de la pression appliquée. L'écoulement, le courant peut prendre deux valeurs, plus J0, moins J0. Même quand vous essayez de le pousser, d'accord, à l'encontre du mouvement spontané, ce système-là, ce troupeau est particulièrement têtu et peut résister à la pression, à la direction que vous essayez de lui imposer. Ok, donc un actif fluide actif, c'est essentiellement un fluide qui s'écoule avec deux valeurs possibles du courant. Donc cette fois-ci, nos lois sont bien différentes. Vous avez deux jeux de contraintes. Une contrainte qui nous dit que le module du courant est J0, et une autre qui nous dit que, et ça vous n'avez pas le choix, la masse elle est conservée, somme des courants égale 0 en état stationnaire. Maintenant, je vous donne un réseau et je vous pose la question, est-ce que vous pouvez me prédire quelle va être la distribution des courants dans ce réseau? Ça, c'est compliqué. C'est un problème de physique statistique qui est en fait assez compliqué, qu'on appelle un problème de vertex, typiquement, et dont on a essayé de classer les solutions. Donc, essentiellement, la question que je voudrais vous poser, ici, je vous montre une image qui n'est pas une image de simulation numérique, mais vraiment une mesure. Ça, c'est les lignes de courant dans le réseau nid d'abeilles que je vous ai montré tout à l'heure. Et la question, c'est est-ce que je vais être capable de prédire la géométrie des lignes de courant dans ce réseau? OK. Alors pourquoi on a choisi un nid d'abeilles? Parce qu'on s'est dit au début, on va prendre le réseau le plus simple. Donc on s'est dit, on va prendre des unités bivalentes. Une entrée et une sortie. Malheureusement, si vous faites ça, vous pouvez faire qu'un tuyau bouclé. Bon, ça, c'était déjà compris. Donc on s'est dit, bivalent, c'est déjà fait. On est pragmatique, on va faire trivalent. Et avec trivalent, le réseau le plus simple que vous pouvez faire, c'est un réseau périodique. Et c'est rien d'autre que le réseau... Je vais souvent dire Honeycomb au lieu de nid d'abeilles parce que... Je vais pas arriver à parler français. Donc ici, ce que vous voyez, c'est un zoom sur la jonction trivalente. Vous voyez qu'ici, vous avez un petit obstacle. Alors tous les résultats dont je vais vous parler aujourd'hui ne dépendent pas du tout de la présence de cet obstacle. Simplement, il accélère le temps de convergence des expériences. Okay, donc vous pouvez l'oublier. Pensez simplement que vous avez trois canaux rectilignes qui se rejoignent à une jonction. Good. Et donc, notre seul paramètre de contrôle, il est géométrique, ça va être le rapport d'aspect du canal, la longueur sur la largeur. Et basta. Donc, on a notre liquide actif favori, nos rouleurs colloïdaux, on remplit, notre liquide se forme, il s'écoule spontanément, et puis ce qu'on voit sur ce film, c'est que manifestement, dans un premier temps, on a des fortes fluctuations de vitesse et de densité dans le système. D'accord. Mais, coup de bol, surtout pour mon étudiant, après quelques minutes seulement, le système atteint un état stationnaire, très calme. Certains d'entre vous, d'ailleurs, au fond de la salle, je pense, ne peuvent pas réaliser qu'il s'agit d'un film, mais c'est bien un film, d'accord. La densité est particulièrement homogène. Ça, c'est la distribution de densité dans le système normalisée par la densité moyenne. Vous voyez que c'est complètement piqué sur 1, d'accord. Donc, vous avez une densité uniforme dans ce système-là. On a pu aussi mesurer le courant dans chacun des canaux. D'accord ? Et là, ce que je vous montre, c'est la distribution du courant. Et vous voyez que cette distribution, elle est piquée sur trois valeurs. Moins J0, plus J0 et 0. Et là, vous dites, Bartolo, il commence bien. Première fois qu'on le voit, il a déjà menti. Il y a 5 minutes, je vous ai dit que ça pouvait prendre deux valeurs. Fini. Et là, je suis en train de vous dire, non, il y en a une troisième, c'est 0. Ah ! Ça attaque. Et en fait, ça, on peut très bien le comprendre quand on regarde une jonction unique. C'est un effet de ce qu'on a, en fait, assez générique en physique, qu'on appelle frustration. Imaginez que vous vouliez injecter un courant actif plus 1 dans cette branche. Bon, il faut conserver la masse. Alors là, vous allez me dire, pas de problème, je peux faire aussi des courants moins 1. Donc je vais mettre un courant ici. 1 plus 1 moins 1, 0. Super. Et alors là, gros problème. Ici, vous n'avez pas le choix. Hein. Ça va forcément être 0. Impossible d'avoir plus de moins 1. En fait, la géométrie triangulaire, trivalente frustre les écoulements laminaires. Vous ne pouvez pas avoir d'écoulements laminaires partout. Et le système qui, lui, veut absolument couler, il accommode cette contrainte de s'écouler absolument partout en formant des vortex. D'accord ? Et parce qu'il y a deux vortex ici contrarotatifs dans ce canal, et bien effectivement, ce canal supporte aucun courant net. OK. Alors, ce n'est pas spécifique à notre système. Il y a d'autres systèmes expérimentaux composés de biofilaments, de moteurs moléculaires. Essentiellement, c'est des systèmes qui ont été volés à la biologie, pour lesquels les gens ont étudié les écoulements dans ce réseau très simple composé de trois boucles. Et on voit la même chose. Courant plus 1, courant moins 1 et courant nul avec formation de vortex. Alors vous avez une autre solution possible, hein, c'est de mettre des vortex partout. Il y a du courant nulle part. 0 plus 0 plus 0 égale 0, vous avez conservé la masse. Impeccable. Donc finalement, on se rend compte qu'on a, dans un réseau trivalent, 7 choix possibles de configuration à chaque nœud. Vous avez des configurations où vous avez un courant entrant, un courant sortant et une branche qui porte aucun courant, et puis la configuration à 3 courants nuls. Et basta. Et ces règles, en fait, elles avaient été conjecturées par Jörn Dunkel et Francis Woodhouse à MIT il y a quelques années. Elle dit, c'est sûr, dans les réseaux trivalents, les liquides actifs, ils doivent couler comme ça. Et c'est la seule règle à laquelle ils doivent obéir. Et alors, le truc sympa, c'est pour vérifier qu'effectivement, ces règles-là décrivent bien la structure de nos écoulements, consiste à réaliser qu'en fait, ces vertex, en fait, sont les générateurs des marches aléatoires auto-évitantes sur le réseau Onécomb. Il suffit de faire quelques dessins pour vous en convaincre. Je ne vais pas entrer ici dans l'explication. Essentiellement, à chaque fois que vous avez un courant entrant, ici, il a le choix d'aller en haut ou en bas. Donc, vous voyez déjà la notion de marche aléatoire. Et en plus de ça, la présence de cette branche nulle va faire en sorte que ces marches aléatoires sont auto-évitantes. On fait une expérience, on mesure les lignes de courant, et effectivement, on s'aperçoit que les lignes de courant forment des réseaux de boucles, d'accord, qui ont sans ordre particulier et qui sont bien auto-évitantes, vous n'avez aucune intersection des lignes de courant. Alors j'insiste sur une chose, c'est que ces 6 images des lignes de courant, alors la couleur ici n'indique que la chiralité des boucles. Si la boucle est parcourue dans le sens aigu d'une bande, ça va être bleu, dans l'autre sens c'est orange. J'insiste sur le fait que ces 6 mesures ont été prises dans exactement le même dispositif, avec les mêmes particules. On a éteint le voltage, on a rallumé le voltage pour motoriser les particules, on attend un moment que le système s'organise, et ce qu'on constate, c'est que vous avez une dégénérescence forte des états stationnaires dans ce système. Contrairement à l'hydraulique des systèmes visqueux, pour lesquels vous avez une seule configuration possible pour un jeu de conditions limites données, ici, vous avez une grande dégénérescence des écoulements possibles. Bon. Donc, du coup, on s'est dit, on va déjà s'assurer que ces géométries, elles sont robustes, ces géométries des lignes de courant sont robustes à la forme des canaux. Donc, on a réalisé des expériences dans des canaux de rapport d'aspect croissant. Et ce dont on s'est aperçu, c'est qu'effectivement, la structure des lignes de courant évoluait avec le rapport d'aspect des canaux. Ici, vous avez des lignes de courant qui sont très froissées et séparées les unes des autres, alors qu'ici, les lignes de courant sont plus persistantes et imbriquées les unes dans les autres. Alors, le froissage des lignes de courant, leur rugosité, vous pouvez les quantifier en utilisant un outil qui est très standard en physique des polymères. Ça consiste à mesurer ce qu'on appelle le rayon de giration des boucles. Alors, le rayon de giration, c'est essentiellement le rayon du disque typique, d'accord, qui va inclure une boucle de longueur L. Ou, si vous préférez, c'est la racine de l'air incluse dans la boucle. Si vous aviez un cercle parfait, le rayon de giration, il serait proportionnel à la longueur, au périmètre de la boucle. Donc, cet exposant vaudrait 1. Dans nos expériences, d'accord, on s'est aperçu que cet exposant ne valait pas 1, il était plus petit que 1, et surtout que cet exposant changeait, d'accord, en fonction du rapport d'aspect des canaux. Et un exposant plus petit que 1, ça veut dire que les boucles sont très froissées. Si les boucles formaient des marches aléatoires, l'exposant serait 1/2. D'accord ? Vous pouvez penser à la longueur comme le temps et à RG comme la longueur parcourue. Vous avez la longueur qui va comme la racine du temps dans les processus diffusifs. Donc ce que je vous montre ici, c'est qu'effectivement, cet exposant qui quantifie la rugosité des lignes de courant saute d'une valeur à une autre pour un rapport d'aspect critique des canaux que je vais appeler epsilon star. Ensuite, la deuxième différence morphologique dont je vous ai parlé, c'est qu'ici, les boucles sont ségrégées, alors qu'ici, elles sont imbriquées les unes dans les autres. Donc on voudrait quantifier le degré d'imbrication des boucles. Alors pour faire ça, il suffit de... Moi, quand je regarde ça, en fait, à quoi je pense, c'est à une carte topographique. Alors pour vous en convaincre, je vous en montre une vraie. Ça, c'est la carte topographique du Mont Blanc. OK ? C'est composé de boucles. Et les boucles, c'est les lignes iso-hauteur. Vous pouvez faire exactement la même chose avec nos lignes de courant. Chaque boucle va être une ligne iso-hauteur. Donc quand les rapports d'aspect des canaux sont petits, le paysage topographique que représentent les lignes de courant, c'est essentiellement la Belgique, hein, c'est très plat. Alors par contre, quand les rapports d'aspect sont élevés, c'est plutôt la Suisse. Vous avez des grosses montagnes et des lacs. D'accord ? Donc pour mesurer le degré d'un... Je ne sais pas le dire en français, nesting de... d'imbrication des lignes de courant. Vous pouvez mesurer la hauteur, la différence de hauteur maximale dans votre paysage topographique. Vous le tracez, vous voyez qu'encore une fois, cette différence de hauteur maximale saute essentiellement d'un système à deux niveaux, hein, la Belgique, à un système où vous avez une topographie plus élevée. Et la transition, elle se produit au même rapport d'aspect que la transition qu'on avait observée dans la rugosité des formes des lignes. OK. Alors, est-ce qu'on peut expliquer cette diversité structurelle maintenant ? Le rapport d'aspect, c'est la longueur sur la largeur du canal. Chaque canal, longueur sur largeur. On peut dire qu'ils ont tous la même largeur, donc ça va être juste la longueur du canal. Donc on se dit, les mecs, ils étaient à MIT, ils ont dit que toutes les règles devaient être prédictes par la donnée de ce jeu de Cybertex. On dit, MIT doit être intelligent, on doit avoir raison, quoi. Mais le problème, vous voyez, c'est que ces règles, elles sont complètement agnostiques à la géométrie du canal. Elles nous disent juste, elles résistent juste à la conservation de la masse. Elles nous disent juste un in, un out et un zéro, et basta. Ça ne dépend pas de la longueur, cette histoire, ça ne dépend pas du rapport d'aspect. Donc il manque quelque chose. Et ce qui manque pour comprendre donc, cette hydraulique active, c'est les interactions entre les lignes de courant. Et ça devient assez clair quand on zoome. Si vous zoomez sur un canal qui porte aucun courant, ici, vous voyez un vortex se former dans des canaux de petits rapports d'aspect, dans des canaux courts. Dans des canaux plus longs, grand rapport d'aspect, vous avez deux vortex qui sont émergés. Et la transition entre le moment où vous supportez un vortex ou deux vortex, ça se fait exactement à cette valeur epsilon star qui distinguait la structure macroscopique de vos écoulements. Ah, OK. Donc là, on se dit, on a une piste, on va essayer de comprendre pourquoi. Et là, je vais vous simplement vous donner une intuition de la raison de cette, du couplage, enfin de la relation qu'il y a entre la structure microscopique des écoulements et leur structure très grande échelle, en vous montrant simplement cette image. Ici, essentiellement, regardez, vous avez un écoulement dans ce sens-là, dans cette branche, un écoulement dans ce sens-là dans cette branche, et un vortex entre les deux. En fait, vous avez une situation à trois engrenages. Vous avez l'engrenage 1 qui tourne dans ce sens-là, l'engrenage du milieu qui tourne dans ce sens-là, et l'engrenage à droite qui tourne dans ce sens-là. Et en fait, le fait que vous ayez une rotation dans ce sens ici, vous impose par continuité des vitesses que les deux écoulements dans ces deux branches doivent être antiparallèles. OK ? Donc la présence d'un vortex vous induit un couplage antiparallèle ou antiferromagnétique, si vous voulez parler en langage magnétisme, entre les lignes de courant séparées par un canal qui porte un courant nul. Et vous voyez que ce couplage antiferro ou antiparallèle, ça favorise énormément des structures en épingle à cheveux. Le long d'une épingle à cheveux, effectivement, la ligne se replie sur elle-même. Ici, vous avez un courant nul. Et effectivement, vous avez un couplage antiparallèle entre les écoulements. Super. Par contre, quand vous augmentez le rapport d'aspect, donc vous avez cette fois-ci un engrenage, un deuxième engrenage, un troisième et un quatrième. Et quand vous avez un nombre pair d'engrenages, d'accord, qui tournent tous dans des sens contrarotatifs les uns par rapport aux autres, et bien cette fois-ci, le couplage entre les lignes de courant représentées en vert, cette fois-ci, va être parallèle. Alors là, ça aurait pu être super, manque de bol. Mon étudiant, Camille, me dit « Ah ben Denis, là, tu as regardé un peu ce qui t'arrange, parce que moi, quand je regarde dans le système, je vois aussi une autre configuration. J'ai deux vortex très proches les uns des autres, qui ne sont pas contrarotatifs, mais co-rotatifs. Si vous avez deux vortex co-rotatifs, en fait, ça ressemble à un gros vortex allongé. Donc ça, ça nous impose, ici, une situation identique à celle que vous auriez si vous aviez un gros vortex déformé, et donc un couplage antiparallèle. On a regardé donc plus précisément la distribution, la fraction des canaux dans lesquels où on avait des couplages antiparallèles ou parallèles, et on a vu que dans les canaux allongés, de grands rapports d'aspect, vous avez prédominance des couplages parallèles. Couplages parallèles, super, sont des couplages qui vont favoriser effectivement des boucles imbriquées et qui tournent tous dans le même sens, pour lesquels effectivement les lignes de courant vont être toutes parallèles les unes aux autres. Donc in fine, maintenant on connaît nos lois. Vous avez somme des courants égale 0, alors là je vais appeler phi j le courant qui relie le nœud i au nœud j. La somme des phi j autour d'un nœud j est 0. Le courant phi j peut prendre trois valeurs, 0 plus phi 0 moins phi 0. Ça marchait bien. Et en plus de ça, donc ça nous définit notre règle de frustration. Et en plus de ça, donc maintenant il faut expliquer comment ces défauts topologiques, c'est-à-dire ces vortex, médient des interactions entre les lignes de courant. Alors pour le formaliser, ce qui est pas mal, c'est de noter que ces vertex, eh bien on peut les classer en deux catégories. Il y a ceux pour lesquels vous faites orange, bleu, gris dans le sens des aiguilles d'une montre, et ceux pour lesquels vous faites orange, bleu, gris dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. D'accord ? Et puis finalement, vous avez le cas où vous avez 3 fois 0, où il n'y a pas de chiralité. Et ça, vous pouvez assigner une variable qui vaut encore une fois plus 1, moins 1 ou 0, pas au canal, mais au nœud du réseau cette fois-ci. D'accord ? Donc vous avez les flux qui vivent sur les canaux, et cette variable de chiralité qui vit sur les nœuds. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est un couplage antiparallèle ? Eh bien, c'est quand vous avez le produit des deux variables qui vaut moins 1, et un couplage parallèle, c'est que vous avez un produit des deux variables qui vaut plus 1. Donc maintenant, on veut être prédictif. On veut être prédictif. Ce qu'on veut, c'est avoir un modèle qui nous dise « Ok, on veut promouvoir l'activité. » D'accord ? C'est-à-dire que on veut absolument éviter les situations où le système ne coule pas. Sinon, ça serait 3 fois 0 partout, on n'en parlerait plus. Alors en physique, quand on cherche comme ça à éviter une situation, eh ben, on essaye plutôt de mettre un grand poids sur toutes les autres. Et pour ça, on va se dire, on va se donner une fonction de coût, que je vais appeler H, d'accord, une énergie, qui va être la somme des carrés moins la somme des carrés des courants. Bon, si vous voulez minimiser ça, c'est pas compliqué, vous mettez tous les modules des courants à 1. Okay, vous n'en mettez pas un seul à 0. Et ça va vous maximiser cette fonction de coût. Ensuite, vous voulez qu'à chaque fois qu'il y a un courant où vous avez un courant nul, c'est-à-dire quand phi j vaut 0, ça c'est le symbole de Kronecker, okay, vous voulez qu'il y ait un couplage entre la chiralité à gauche et la chiralité à droite, sigma i, sigma j. Okay. Et le signe de cette constante-là va vous dire si vous avez un couplage ferromagnétique ou antiferromagnétique, parallèle ou antiparallèle. Bon, ben super, et puis vous allez minimiser cette énergie maintenant en garantissant que partout, à chaque nœud, vous conservez la masse. Si vous faites ça, ben vous, effectivement, vous pouvez prédire que les lignes de courant forment effectivement des boucles fermées auto-évitantes. Quand la constante de couplage favorise l'écoulement parallèle, vous avez effectivement un très fort degré d'imbrication et des boucles de courant persistantes, alors que vous avez des boucles ségrégées et très peu persistantes, avec beaucoup d'épingles à cheveux, quand les couplages sont antiparallèles, ce qui miroire très bien nos observations expérimentales. On peut être plus quantitatif, On s'aperçoit ici que la mesure des exposants de rugosité prédites par le modèle et observées expérimentalement sont en très bon accord. Et ces lignes en pointillé, je vous promets, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, en fait, ce sont des prédictions exactes. En fait, le modèle que je vous ai montré, il est exactement soluble par un mapping, je ne sais pas comment on dit ça en français, une transposition sur des modèles de physique statistique qu'on peut résoudre par des méthodes de théorie conforme des champs qui dépassent très largement ce que vous avez appris jusqu'à présent. Et de la même façon, notre modèle prévoit aussi très très bien la transition brutale, d'accord, sur la rugosité du paysage topographique, exactement à ce point clé où on a une transition entre le signe des couplages microscopiques. Donc on est super content. On a nos lois de l'hydraulique active. Les lois sont simples, mais les géométries qui en émergent sont compliquées et fortement dégénérées. Donc ça, on a bien compris. Donc l'hydraulique, c'est simple, hein. C'est le courant proportionnel à chute de pression. Ce qui est plus dur, c'est l'hydrodynamique. C'est vous dire, je ne vais pas m'intéresser simplement à ce qui se passe macroscopiquement aux bornes d'un tube. Je vais vouloir décrire la structure de l'écoulement à l'intérieur du tube. C'est ça qu'on va essayer de faire ensemble pour des liquides actifs. Et le liquide pour lequel j'aimerais le faire, c'est celui-là. Donc ce que vous voyez sur ce film, ce sont les marathoniens du marathon de Chicago qui ont été filmés sur celui-là, je crois, en 2019. D'accord ? Donc vous voyez la zone de départ. Et les marathoniens s'élancent pour une durée qui va entre un peu plus de 2 heures et 6 heures pour les plus lents et les plus persévérants. Et donc, moi, quand je regarde ça, j'ai l'impression de voir une bouteille et un liquide qui sort de la bouteille. J'ai pas envie de regarder les individus. Il suffit que j'enlève mes lunettes, ça y est, je les vois plus. D'accord ? Ce que je vois, c'est un liquide qui s'écoule. Et ce que je voudrais être capable, c'est d'écrire l'écoulement de cette foule sans faire aucune hypothèse comportementale sur les marathoniens. J'ai aucune connaissance, d'accord, du comportement, des interactions entre deux marathoniens. Et pourtant, moi, je prétends que je vais être capable de décrire l'écoulement à grande échelle de cette foule. Et à cette heure-là, ça ne devrait pas vous surprendre, parce que, en fait, c'est ce qu'on fait toujours quand on essaye de décrire les écoulements de nos liquides favoris. Si vous prenez le vin, vous voulez décrire l'écoulement du vin depuis la bouteille jusqu'au verre. Il n'y a pas un d'entre vous qui me proposerait « Ah, je sais comment faire ». On va considérer les interactions entre les molécules d'eau et les molécules d'eau, les molécules d'eau et les molécules d'alcool, entre les sucres et les molécules d'eau, les sucres et les molécules d'alcool. Et je vais mettre ça sur un super ordinateur et je vais résoudre les équations de Newton. Bon, si vous me faites une femtoseconde de la dynamique du vin dans la bouteille, c'est le paradis, quoi. On ne fait pas ça. On fait de l'hydrodynamique. On fait de la mécanique des fluides. Et pour faire de la mécanique des fluides, on se sert de 2 choses. Des lois de conservation, de la masse, de l'impulsion. Ça, c'est ce que vous appelez. Et on se sert aussi de relations constitutives ou phénoménologiques. En mécanique des fluides, c'est la relation qui relie la contrainte à la déformation. Les lois de conservation, elles s'appliquent à peu près à tout ce qui existe dans l'univers. Les relations constitutives, elles sont spécifiques à des classes de matériaux. Et pour les trouver, il faut faire des expériences. Et c'est ça qui manquait, et c'est ce qu'on a essayé de faire. C'est parti. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi les marathons ? Alors on a choisi les marathons pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'ils sont prédictibles. Les foules, le marathon de Chicago, ils vous préviennent l'année d'avant, ça sera telle date, telle heure, départ, vous savez où aller. Et c'est vrai pour tous les marathons du monde. Vous avez donc beaucoup d'événements prédictibles. Vous n'avez pas de problème éthique à aller filmer le départ du marathon. Et en plus, si vous êtes vous-même coureur, vous savez peut-être que les gens qui participent au marathon, au moment où ils s'inscrivent, ils savent déjà quel temps ils vont mettre pour le finir. Si vous courez un marathon en 3h30, vous allez vous pointer à l'inscription, par exemple, au Running Lyon. Vous dites « Bonjour, je vais m'inscrire au Running Lyon. Je vais m'inscrire dans la tranche des 3h30. » On dit « Ok, pas de problème. Vous êtes 3h30, vous vous pointez à 9h15 du matin. » D'accord ? Moi, je viens, moi, je dis, ben, moi, je vais finir en 2h10. Elle dit, ah, ben, vous allez venir plus tôt. On va vous faire partir avant. D'accord ? Et comme ça, on fait venir les coureurs, d'accord, par tranche de rapidité. D'accord ? On crée comme ça des vagues de coureurs. Et les coureurs les plus lents, pour pas qu'ils ne gênent les coureurs les plus rapides, sont guidés vers la ligne de départ par des organisateurs qui vont avancer, s'arrêter, d'accord ? Et puis en plus, ils ont tous des gilets jaunes, hein, d'accord ? Ce qui donne une utilité à ce mouvement. Vous voyez ? Clac, ils guident les marathoniens vers la zone de départ. Super. Et donc, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, vous avez un liquide et vous le perturbez au bord. Et en fait, il y a une science, encore une fois, de l'ingénieur qui fait ça en permanence, ça s'appelle la rhéologie. Quand vous voulez mesurer la viscosité, par exemple, d'un liquide, qu'est-ce que vous faites ? Vous le mettez entre deux plaques, vous bougez une plaque, et vous mesurez la force qu'il faut pour se dépasser la plaque à une vitesse donnée. Donc vous le perturbez au bord, et vous en déduisez la relation constitutive dans le volume. C'est exactement ce qu'on va essayer de faire. OK ? On perturbe au bord, on veut déterminer l'hydrodynamique de volume. Pour ça, il nous faut un rhéomètre. Et notre rhéomètre, c'est ça. Ça, c'est la ville de Chicago. Donc si vous y êtes déjà allé, c'est le coin du lac. Ça, c'est la ligne de départ. Ça, c'est le Snake Bridge. Et on a trouvé ici un hôtel, d'accord, qui permettait d'avoir une vue dégagée sur le marathon, modulo le fait qu'on ait une chambre très, 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 très à gauche de l'hôtel, et si possible, la plus haute possible. Donc là, on appelle, et on leur dit « Allô, I am Denis Bartolo from France, Ernest de Lyon. I will not shoot the runners. » Could you please give me the leftmost room in the topmost floor of your building? Et là, le gars ne se méfie pas du tout et nous donne la chambre. OK? Et on a tiré sur personne. Jusqu'à preuve du contraire. Et donc ça, c'est notre labo. On a installé des caméras. Alors en fait, c'était mon étudiant qui, à l'époque, était allé. Moi, je n'y suis pas allé. C'était quelque chose d'assez stressant parce que autant la dynamique, l'expérience qu'on fait en labo, bon, mais on rate, on dit, bah, c'est pas grave, je vais prendre un café, je vais discuter avec mes potes, je fais un TikTok et puis je relance l'expérience. Okay ? Là, les marathoniens, bah, vous pouvez prendre autant de café que vous voulez, faire autant de TikTok que vous voulez, vous n'allez pas leur dire, non, tout le monde revient, et on recommence. Quoi. D'accord ? Donc, niveau de stress maximum. Donc, ça valait le coup. On a obtenu un stock d'images. Bon, il a fallu un petit peu travailler pour corriger les distorsions optiques de ces images-là. Et une fois qu'on a fait ce travail, qui était un petit peu fastidieux, mais qui était bien balisé, on a pu commencer à faire des mesures. Donc on a commencé à mesurer la densité. Et alors là, j'ai eu une chance folle, j'avais un polytechnicien. Et un polytechnicien, c'est un militaire. Et un militaire, ça obéit. Okay. Et un militaire, quand vous lui dites « compte », qu'est-ce qu'il fait ? Il compte, exactement. Exactement. Et je lui ai dit, Nicolas, compte. 1, 2, 3, 4, et il compte tous les mecs. D'accord ? Et Nicolas, il dit rien, il compte. Il est content. Et puis à un moment, Nicolas, il me tire la gueule. Et je dis, qu'est-ce qui t'arrive, Nicolas ? Pourquoi tu n'es pas compté ? T'es pas content ? Je t'ai demandé de compter, t'as compté. Il dit, ben, le problème, c'est que j'ai compté deux fois quand même. Et j'ai pas trouvé la même valeur, mais j'ai vraiment gros écart, quoi. Et donc, du coup, Nicolas, il s'est aperçu que, ben, regardez, là. Et puis, il y avait lui aussi. Hop, on ne le voit plus. Il revient. Ben, du coup, Nicolas, il n'a pas compté sur des images, il a dû compter sur des films. D'accord ? OK. Donc, après une petite semaine de clic, une fois qu'on a fait ça, en fait, on était assez contents. On a obtenu une courbe avec des variations spectaculaires. C'est celle-là. Là, ce que je vous montre ici, c'est la densité tracée en fonction de la distance à ligne de départ. Tout plat. Aucune variation. Et je ne plaisante pas en disant que c'est assez spectaculaire. Parce que cette valeur de 2,2 personnes par mètre carré, elle ne dépend pas du tout de la typologie des coureurs. Ça peut être des athlètes ou les coureurs du dimanche. 2,2 personnes par mètre carré avec des fluctuations ridiculement petites. L'autre chose qui est spectaculaire, c'est qu'effectivement, en dépit du fait que les athlètes, eux, peut-être sont pressés de courir, je me serais attendu à avoir une augmentation de la densité proche de la ligne des organisateurs. Les gens ont envie d'en découdre. Au contraire, celui qui sait qu'il va mettre 6 heures, il va peut-être y aller lentement. Et on pourrait se dire on va avoir un gradient de densité dans l'autre sens. Pas du tout. La distribution, elle est plate, quelle que soit la typologie des cours. Alors ensuite, pour la vitesse, donc il suffit pas de cliquer. Et là, il faut cliquer sur toutes les images du film. Donc je vous rassure, c'est pas ce que vous pensez. Là, on n'a pas cliqué, on a utilisé des outils standards de mécanique des fluides qui s'appellent Particle Imaging Velocimetry, qui vous permet, je ne vais pas détailler la technique, ça n'a pas un intérêt fou, qui permet par des techniques de corrélation d'images de mesurer un champ de vitesse sans avoir à suivre les particules individuelles. D'accord ? Donc on a pu mesurer comme ceci le champ de vitesse dans la foule. Super. Ce qui apparaît clairement, quand je superpose le film et ces couleurs qui représentent le module de la vitesse, c'est qu'à chaque fois que la ligne d'organisateur avance, vous avez une vague de vitesse qui se propage dans la direction amont. C'est exactement le phénomène que vous avez certainement déjà observé quand vous êtes au feu rouge. D'accord ? La première voiture démarre et puis vous avez une onde de vitesse qui propage, d'accord, dans la direction amont. Très bien. Donc cette observation, on l'a faite de façon un petit peu sérieuse, et là je vous la représente sous la forme d'un diagramme spatio-temporel. Alors ça c'est toujours un petit peu compliqué à lire, donc je vais y aller mollo. La couleur indique la valeur de la vitesse. Clair, on va vite. Foncé, on va lentement. L'axe vertical, c'est la distance à la ligne de départ. Et l'axe horizontal, c'est le temps. D'accord ? Le temps passe à l'horizontale. La distance, c'est vertical, et la couleur, c'est la valeur de la vitesse. En jaune, grâce justement au dossard jaune, on a pu suivre le mouvement de cette ligne et la trajectoire de la ligne. Je vous la montre ici, en jaune aussi, sur le diagramme spatio-temporel. Et ce que vous constatez, c'est qu'à chaque fois que vous avez une cassure de pente ici, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les organisateurs avancent, une onde dans la foule est émise. Comme vous avez une ligne droite dans cette représentation espace-temps, la propagation se fait à vitesse constante. Et la vitesse, c'est juste la pente de cette droite. Et encore une fois, ce qui est assez remarquable, si vous regardez la distribution, l'histogramme des vitesses, vous voyez qu'il est très piqué, à une vitesse de 1,2 mètre seconde. Et encore une fois, ça ne dépend pas du tout du type de coureur, athlète ou coureur du dimanche. Ok. En plus de se propager à vitesse constante, je voudrais argumenter sur le fait que ces ondes sont des ondes linéaires. Alors, par linéaire, j'entends la chose suivante. En noir, ici, je représente donc la vitesse en fonction du temps pour la ligne d'organisateur. Ça, c'est notre signal d'entrée. Ok. Signal de sortie, je vais mesurer la vitesse, d'accord, en fonction du temps dans la foule. Ici. 15 secondes plus tard, 30 secondes plus tard, 45 secondes plus tard, 60 secondes plus tard, c'est-à-dire à près d'une centaine de mètres du point de perturbation. Et quand vous regardez le signal de sortie, ici, orange-jaune, en fonction du signal d'entrée, vous voyez qu'il se ressemble beaucoup. Et vous n'avez pas changé la forme du signal. D'accord ? Si vous ne changez pas la forme du signal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de processus non linéaire qui a pu effectivement détériorer le signal. En plus de ça, le signal est faiblement atténué, d'accord ? Donc super, ça va nous permettre de l'exploiter pour comprendre comment ces vagues de vitesse dans la foule nous informent sur son hydrodynamique. Alors là, typiquement, quand vous avez des ondes linéaires, il y a un truc qu'on aime bien faire en physique, c'est de l'analyse spectrale. La seule chose que ça veut dire, c'est qu'on va utiliser les ondes les unes après les autres. Donc je vais être honnête avec vous, je ne sais pas exactement ce que vous savez sur la physique des ondes. Je suppose que vous savez tous ce que c'est une onde plane, cosinus oméga t moins kx. Ouais ? Super. Ok, donc pour une onde, il vous faut une fréquence et un vecteur d'ombre. D'accord ? Ici, on est à 2D. Donc des vecteurs d'onde, j'en ai dans la direction x et j'en ai dans la direction y. Alors plutôt que de parler de kx, ky ou qx, qy, je vais vous dire, on a un module du vecteur d'angle et une direction de propagation θ de mes ondes. Ok ? Bon. Et je vais regarder deux quantités. la vitesse de l'écoulement, le module de la vitesse, et la direction de la vitesse. Je vais me poser la question, est-ce qu'on a des ondes sur le module et sur l'orientation, que sur l'orientation, que sur le module? Et c'est à ça que je voudrais essayer de répondre. Donc je commence par le module de la vitesse. On choisit une direction de propagation, et ici elle est paf, pi sur 4. Hein. Et ce que je vous montre ici, c'est l'énergie cinétique des ondes. La couleur, ça code pour l'énergie cinétique. C'est le carré de la vitesse. D'accord ? Pour chaque fréquence et chaque vecteur d'onde. Donc en x, vous avez les vecteurs d'onde. En y, vous avez les fréquences. Donc une paire q oméga, hein, c'est une onde en particulier. Et ce que vous voyez, c'est que toute l'énergie cinétique est concentrée sur une ligne. Ça veut dire qu'essentiellement, vous avez une relation entre les pulsations et les vecteurs d'onde, d'accord ? Et ça s'appelle la relation de dispersion d'un milieu. Et ici, elle est super simple, elle est juste linéaire. C'est exactement comme dans la pièce, d'accord ? C'est oméga égale ck, d'accord ? Et ça, c'est rien d'autre que la vitesse du son. Ce qui est un petit peu compliqué dans la foule, contrairement à ce qui se passe pour le son dans la pièce, c'est que la vitesse du son n'est pas isotrope. D'accord. Quand je te parle, d'accord, la vitesse du son, d'accord, qui te permet de m'entendre, est la même que quand je te parle. On est d'accord. Bon, mais dans la foule, c'est pas comme ça. La vitesse du son, elle dépend de la direction de propagation. D'accord. Il y a cette forme de cloche. Bon, en fait, c'est tout bête. Hein, ça, c'est un cosinus. Ça nous dit simplement que vous avez simplement du transport dans la direction amont. C'est-à-dire que oméga. C'est juste moins une vitesse fois qx, et basta, ça se propage que dans la direction x, que dans l'axe de la route. Ensuite, vous pouvez regarder la largeur du spectre. D'accord ? La largeur du spectre, ça vous dit quel va être le taux d'amortissement de cette onde. D'accord ? Quel est l'inverse du temps d'amortissement de l'onde ? Donc vous pouvez tracer cette fois-ci le taux d'amortissement de l'onde en fonction du vecteur d'onde, et vous voyez qu'il y a une relation comme le taux d'amortissement qui va comme Q2. Ça, c'est un temps moins 1 qui va comme une longueur moins 2, c'est un processus diffusif. OK. Donc, les ondes sont atténuées de façon diffusive. Encore une fois, le coefficient de diffusion, il dépend de la direction de propagation. C'est un cos carré. Ça veut dire qu'en fait, pour la vitesse, vous avez une dynamique qui est purement unidimensionnelle. Tout se passe dans la direction X. Vous avez du transport et de l'amortissement diffusif. Pour l'orientation, on peut faire la même histoire. Maintenant, quand on regarde les spectres, c'est juste des grosses taches centrées autour de zéro. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'onde, il n'y a que de l'amortissement. On mesure la largeur et on retrouve la même chose. Le taux d'amortissement, c'est une parabole. Okay, ça va comme Q2. Ça diffuse dans les directions X et Y, mais. Ici, vous avez un gap aussi sur cette courbe-là, vous voyez ? Ça veut dire que là, autour de 1,5, là, vous avez un temps caractéristique qui ne dépend pas de la longueur d'onde, qui ne dépend pas de l'échelle. C'est-à-dire que toutes les fluctuations d'orientation, quelle que soit leur échelle, elles vont leur accès en un temps typique qui va être 1 sur alpha 0. Donc l'orientation, ça relaxe très vite. La vitesse, ça se propage. L'orientation, ça relaxe très vite. OK, donc qu'est-ce qu'on en sait ? L'hydrostatique, rho est constant. La vitesse, elle se propage, et l'orientation, elle relaxe très vite vers l'orientation de la route, pas fou les coureurs, en un temps sur alpha 0. Ensuite, on a des lois de conservation, on a quelques éléments de symétrie, et on va faire aucune hypothèse comportementale, et tous ensemble, on va dériver l'hydrodynamique des foules. Allez, c'est parti. On va considérer trois quantités, la densité, la vitesse et la polarisation. Alors la polarisation, c'est juste la direction dans laquelle regardent les coureurs. Okay, c'est l'axe de Monet. Alors, jusqu'à preuve du contraire, enfin nous, on n'a jamais vu de coureurs qui faisaient le crabe. D'accord ? Donc, on va supposer que la polarisation et la vitesse sont alignées. Good. Allez, les lois de conservation. La masse est conservée. Ça nous dit que la dérivée par rapport au temps de la densité plus la divergence du courant égale zéro. Conservation de la masse. L'impulsion est conservée. C'est-à-dire que la masse fois l'accélération égale la somme des forces. Et puis alors, vous avez deux types de forces. il y a celle qui dérive d'une contrainte, divergence de sigma, et ce qu'on appelle les forces de volume. Force de volume, par exemple, c'est la gravité. D'accord ? Bon, le marathon de Chicago, c'est pas en pente, il n'y a pas de gravité. Et puis vous avez la conservation aussi du moment angulaire. Là, je ne vais pas vous dériver toute l'histoire, parce qu'on sait que de toute façon, la dynamique elle est très suramortie. On va juste dire qu'on a un couple visqueux qui balance un autre couple, on ne sait pas lequel. Très bien. Et bien justement, on ne sait pas lequel, mais on ne sait pas non plus écrire la force, et puis on ne sait pas non plus écrire la contrainte dans ce système. C'est ça tout le problème. Okay. Moi, j'ai pas de rhéomètre, hein. Je peux pas prendre les mecs, les marathoniens, les cisaillés, d'accord, attendre qu'ils crient et mesurer la force, et je peux pas faire ça. Donc, il faut un peu se casser la tête, et en fait, on se fait aider par un gars, un russe qui s'appelait Lando, d'accord, qui s'était dit on va regarder les trucs à grande échelle. Et par exemple, pour la contrainte, sigma, hein, pas le gradient, on se dit ben, on va pouvoir la développer en gradient. D'accord ? On va dire à très très grandes échelles, les termes en gradient ils vont devenir de plus en plus petits. Ben à l'ordre le plus bas, donc c'est une constante, ça dépend. C'est un gradient de rien du tout. Mais une constante, c'est une pression, quoi. Une contrainte qui est un gradient de tout, c'est juste une pression. Ok, super. Et donc si vous faites de la réponse linéaire, vous avez juste div de sigma qui va être donc une constante fois le gradient de pression. Et ça, c'est la compressibilité de la foule. Très bien. Puis vous avez votre conservation de l'impulsion, on y revient. On a aussi maintenant la force dont il faut s'occuper. Alors ça, par contre, on sait. Bah, c'est la friction du sol. S'il n'y a pas de friction, vous n'avancez pas. Hein. Vous avancez parce que le sol vous pousse. Hein. On est tous d'accord avec ça. La preuve, patinoire, vous n'avancez pas du tout. Friction zéro, vous ne marchez pas. Donc, à la force de friction. Bon, quelle forme elle prend ? Bah, on ne sait pas, mais on fait pareil. On dit, bah, c'est un vecteur, hein, une force. Hein. Qu'est-ce que j'ai comme vecteur à ma disposition ? J'ai le gradient. Je dis, mais non, mais les gradients, on n'en veut pas, parce qu'à grande échelle, ça va tendre vers zéro, tout ça. Ben, des vecteurs, j'ai quoi ? Ben, j'ai l'orientation, la polarisation et la vitesse. Donc on va dire qu'à l'ordre linéaire, cette force, ça doit être... Ah ben ça ressemble à une friction vitesse, une friction visqueuse, hein, moins gamma V. D'accord ? Ça, c'est moi, je cours, je m'arrête. Hop, j'arrête. Et puis, l'autre terme, le P, c'est la propulsion. D'accord ? C'est ce que j'ai envie d'appeler de la friction active. Good. Bon, ben là, on peut faire l'hydrostatique pour voir si on n'a pas trop dit n'importe quoi. Donc, on dit que la dérivée par rapport au temps, elle est nulle. La divergence de la contrainte, c'est juste le gradient de la densité à l'ordre linéaire. La vitesse est nulle, donc la force de volume, c'est juste nu 0 fois donc notre force de propulsion. Bon. Ben, le long de x, hein, ça fait d en x rho égale constante. Ça veut dire que rho croît linéairement. Ah. Houston, we've got a problem. Parce que ça, ce n'est pas du tout ce qu'on a mesuré. Nous, ce qu'on a mesuré, c'est que la densité, quand la vitesse était nulle, elle est constante et uniforme. Et là, on a appris quelque chose. Ça, on a appris que précisément, ce terme-là, il doit être zéro dans une foule repos. Et effectivement, ça nous dit que ce coefficient-là, il doit dépendre de la densité, que cette valeur de 2,2 m² par seconde, c'est précisément la valeur qui annule ce coefficient de friction active. Bon, pour la dynamique angulaire, pour le couple, on fait la même histoire. On dit qu'on va relaxer, on a DTP qui va relaxer en un temps 1 sur gamma vers la direction X. D'accord, on a vu que ça relaxait. En un temps, tout à l'heure, je l'avais appelé, enfin, gamma H, c'est le alpha 0 de tout à l'heure, d'accord, ça relaxe en un temps fini dans la direction de la route. Ben, vous prenez tous ces ingrédients, shaker, pas la petite cuillère, vous les mettez ensemble, et vous trouvez l'hydrodynamique des foules. Vous avez une seule équation pour le module de la vitesse. DTV, moins C0, D en XV, moins D0, dérivée seconde par rapport à X de V, et basta cosi. C'est tout. C'est beaucoup plus simple que Navier-Stokes, en fait, une foule. Hein. OK ? Alors, tout ce cinéma là, que je viens de faire sur la somme des forces, deviner les couples, les forces, les contraintes, ça sert à une chose, ça sert à connaître l'origine de ces coefficients. Ce coefficient, c'est le produit de la densité par la dérivée de ce coefficient de friction actif. Et ici, l'amortissement, c'est directement relié à la compressibilité. Alors, vous voyez, c'est exactement l'opposé de ce qui se passe dans la pièce. Hein, donc. La compressibilité, ça amortit pas du tout le son. Au contraire, ça lui permet de se propager dans la pièce. Et à contrario, la friction visqueuse ou contre les parois de la pièce, elles vont atténuer le son. Donc, c'est exactement l'inverse de ce qui se passe dans la pièce qu'on a dans une foule. Bon, alors, le modèle, il est simple, hein, mais la question, c'est surtout, est-ce qu'il est prédictif ? Le militaire, tu vas à Chicago, tu fais des mesures, 2016. Tu vas à Chicago, tu fais des mesures, 2017. Tu vas à Paris, tu fais des mesures, 2017. Bon, à chaque fois, il était dans des hôtels 5 étoiles, donc on ne va pas non plus le... Atlanta, j'en ai une histoire sur Atlanta à la fin du talk, et Chicago 2018. Super. Et donc maintenant, ça, c'est Chicago 2016. Vitesse en fonction... vitesse des ondes en fonction de la direction de propagation. OK ? Le cosinus. Données expérimentales en rouge, ajustement théorique en noir. Ça marche bien. OK ? Maintenant, je vous montre les données brutes des autres années. Donc, Chicago 2017, Paris, Atlanta, Chicago. Et pour l'amortissement, on a le même type d'accord. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire ? C'est qu'on est allé à Chicago en 2016. On a mesuré les fluctuations de la foule. On a fait cette analyse spectrale. On a inféré un modèle hydrodynamique. On est allé à Paris en 2017. On a vu qu'il y avait une perturbation appliquée à la foule et on a été capable de prédire comment allait bouger la foule plusieurs minutes après l'application de la perturbation, plusieurs centaines de mètres plus loin, avec une précision remarquable. Donc ça veut dire qu'en dépit du fait que le modèle soit simple, il est très prédictif sur la dynamique, les écoulements à grande échelle de cette foule de piétons. Bon, les dernières choses que je veux vous dire, c'est que ce travail, en fait, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, il a été fait par des étudiants et des postdocs exceptionnels. Alors Camille est un étudiant en troisième année de thèse dans mon groupe en ce moment, qui travaille sur l'hydraulique active. C'est un travail qui avait été commencé par Amélie Chardac, qui est en postdoc à l'université de Brandeis, dans la région de Boston. Alexis Poncet, lui, a travaillé sur la théorie, était postdoc il est encore postdoc jusqu'au 1er octobre où il sera chercheur CNRS donc ici au labo de physique. Ça c'est le militaire, d'accord, qui est maintenant chercheur au CNRS dans le Nord à l'ILM à la Doua quoi. Et ses travaux. En particulier sur les colloïdes actifs, qui a été commencé par Alexandre Morin, qui lui est prof à l'université de Leiden, et par Delphine Gaillère, qui est prof aussi, mais au lycée Louis-le-Grand à Paris. Je vous remercie de votre attention.